Ça va dans le sens de ce que je veux partager avec vous ce matin. C'est important parce qu'en fait, Dieu veut vraiment que notre foi, elle grandisse. En fait. Il veut qu'on ait une foi mature. Hein. Et allez, je ne sais pas si... Tiens, on va faire un... On est une famille nombreuse ici, avec de tous les âges. Quels sont ceux qui sont nés nouveaux déjà, enfin petit test, hein, pour moi, depuis plus de 25 ans, un quart de siècle, ça compte. Hein. Il y en a plus de 15 ans. Oui. On va dire plus de 5 ans. Oui. Et moins de 5 ans. Et ben, en fait, voilà. Il y a un peu, ben, c'est un peu le reflet d'une famille nombreuse. Il y a les grands, les aînés qui se débrouillent tout seuls un petit peu. Bon, ils sont assez autonomes. Il y a les, bon, ceux qui sont encore un peu plus jeunes qui ont besoin parfois d'être conseillés dans leurs décisions. Puis il y a les bébés, ben encore les bébés, des fois il faut encore s'occuper d'eux, il faut encore donner biberon, donc il faut changer les couches. Hein. C'est comme ça dans notre famille nombreuse. Je suis 5e de 10, je connais aussi, on sait que les plus grands s'occupent des plus petits. Même déjà quand il y en a deux, hein, le deuxième s'occupe déjà, les deux s'occupent du deuxième. C'est comme ça. Et je dirais que dans la famille de Dieu, ça doit être de la même façon, on doit avoir conscience qu'il y a des plus petits, il faut les aider, on est là pour les encourager. D'accord. Et je ne sais pas si ça vous arrive, des fois vous rencontrez des personnes qu'on n'a pas vues depuis 10, 15 ans, 20 ans. Et on les retrouve. Ah, t'as pas changé, t'es dans l'euphorie des retrouvailles, on les reconnaît, c'est le même timbre de voix, les mêmes façons de s'exprimer. Bon, et ça fait plaisir à la personne, je dirais, je n'ai pas changé. Mais si c'est un complément dans le domaine physique, vous savez, dans le domaine spirituel, dire à quelqu'un 10 ans, 15 ans, oh, t'as pas changé, je ne sais pas si c'est tellement flatteur. Ça veut dire que finalement, la vie de Durno n'a pas fait beaucoup de changements. Donc, c'est pour ça que la question là, que je pose à tous, j'espère que vous qui êtes nés nouveau depuis longtemps, que vous avez grandi, hein, et la question c'est, est-ce que maintenant je vis ma foi comme un enfant ou comme un adulte? Et ça, c'est quand même important. D'accord? C'est pour ça que le titre du message, là, donc, c'est « Enfant ou adulte, comment devenir spirituellement mature ?» Ok? Donc, on va... commencer notre méditation à partir du texte qui est en Hébreux 5, mais je voudrais déjà quand même qu'on demande au Saint-Esprit, c'est lui qui enseigne, c'est pas moi, que le Saint-Esprit parle au cœur de chacun et qu'on puisse vraiment être interpellé parce que Dieu veut nous dire encore dans sa parole au sujet de cette croissance. Et nous te prions pour que, à travers ce qui va être dit, que ton Saint-Esprit puisse parler à chacun, c'est-à-dire c'est un peu comme une table, il y aura beaucoup à manger, c'est-à-dire chacun prendra ce dont il a besoin. Hein, Seigneur, pour sa croissance, mais toi, indique, Seigneur, à chacun eh bien, les domaines dans lesquels il y aura peut-être des efforts à faire, Seigneur, ou simplement te laisser agir. On sait que ce que tu veux, c'est que notre foi grandisse, Seigneur, eh bien, que cette parole qui est annoncée encore soit l'occasion pour chacun de nourrir la foi. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Donc, je vous invite à prendre le passage qui se trouve en Hébreux 5. On va lire des versets donc, 11 à 14. Nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, donc il s'adresse à des chrétiens d'origine juive, donc, en fait, il leur reproche leur lenteur à comprendre et il les compare à des bébés à qui il faut encore donner le biberon. Ils sont incapables de prendre de la nourriture solide. Et c'est des bébés parce que, il va dire, ils n'ont pas donc, cette expérience de la parole de justice. Alors qu'ils devraient être des hommes matures, capables de manger la nourriture solide et être capables de discerner donc, ce qui est bien et ce qui est mal. Bon. Donc on comprend d'emblée que ce qui fait un chrétien mature, ce n'est pas les années de conversion. Hein. Bon. Il y en a qui ont 10, 15, 20 ans de conversion. Quand on les voit réagir, on dirait encore vraiment des bébés. Hein. Ils sont sous le coup des émotions, ils ne contrôlent pas, ils ne maîtrisent pas. Bon. Enfin, il y a un problème. Bon. Et à l'inverse, on voit des jeunes chrétiens, jeunes convertis, ils vont vitesse grand V. Là. Ils s'impliquent dans l'église, on sent qu'ils ont une foi passionnée et tout. Ça fait plaisir à voir. Donc, ce qui compte, ce n'est pas déjà les années, Mais on va le voir, donc, déjà, un élément essentiel, c'est vraiment une disposition d'un cœur qui veut plaire à Dieu, ouais, et qui va chercher, donc, en toutes circonstances, à mettre la parole en pratique. Donc, et posons-nous la question, déjà, donc, est-ce que j'en suis encore, moi, au lait ou à la nourriture solide? Voilà. Donc, objectif atteint, voilà. L'objectif atteint, eh bien, il est défini. On va le lire tout de suite dans Éphésiens 4. Prenez avec moi, donc, Éphésiens 4. On va lire à partir du verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc, on le voit, l'objectif, c'est d'atteindre à la maturité, stature parfaite de Jésus, donc la stature de l'homme fait, c'est vrai. Et donc, pour nous, notre référence, c'est Jésus. L'homme mature par excellence, c'est Jésus. C'est à son image que Dieu veut nous façonner. Ce sont ses qualités qu'il veut modeler en nous. C'est vrai. Mais quand on dit homme fait, comprenez bien qu'il ne s'agit pas d'une perfection absolue. Vous savez, quelqu'un qui ne commet aucun péché est parfait. Non, non. Homme fait, c'est au sens donc de mature, épanoui dans tout domaine, et donc accompli dans tout domaine, et mature égale en état de porter du fruit. D'accord ? Non. Et on va voir que ce fruit, c'est le fruit de l'esprit. Donc cette notion de porter du fruit, elle est très biblique. En fait, dans l'Ancien Testament, Dieu est souvent comparé à un vigneron qui prend soin de son peuple et qui est comparé à une vigne. Et Dieu veut que la vigne porte du bon fruit. Jésus va reprendre la même image dans le Nouveau Testament. Il dira lui-même, on a ça en Jean chapitre 15, il va se comparer donc au cep, dont nous sommes les sarments. Il va dire, je vous lis quelques versets, « Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Au verset 5, il va dire, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et il dira au verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Ça veut dire que si on veut se dire disciple de Jésus, on se doit de porter du fruit, et un fruit qui va manifester aux yeux de tous la gloire de Dieu. D'accord. Donc, Dieu veut que je porte ce fruit. Et ce qui est étonnant, c'est que Jésus qui est venu apporter la bénédiction de Dieu sur terre, Jésus qui a eu que des paroles de bénédiction, Jésus qui rendait réelle cette bénédiction de Dieu en guérissant les malades, en faisant des miracles, Jésus a un jour eu des paroles de malédiction. Et vous savez, à l'égard de quoi ? À l'égard d'un figuier. Et pourquoi ? Parce que le figuier était stérile, ne portait pas de fruits. Donc c'est tout un symbole. Donc Dieu veut nous voir porter du fruit. Mais on pourrait donc, un autre critère, je dirais, une autre façon de définir la maturité, c'est à partir de 2 Timothée 3,16, qui déclare, vous connaissez, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Il y a une autre traduction qui dit aussi, bon, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre de Dieu. Donc on peut définir la maturité aussi comme l'état de celui qui a laissé la parole de Dieu l'instruire, le convaincre, le corriger, d'accord, pour qu'il en arrive à un stade où il est un expert, un homme expérimenté, parce qu'il a fait l'expérience par la mise en pratique de la parole, que, ben oui, la parole, elle est vraie, et que, effectivement, sa foi s'est fortifiée. Donc, à partir de... Non. On revient. À partir de ce schéma-là, oui, il y a deux façons de considérer notre état de maturité. D'une part, par rapport à qui je suis. C'est-à-dire que je suis comme un sarment qui reçoit la vie de Jésus, qui est le cep, et cette vie me fait grandir. Donc, mes qualités grandissent, et disons que je suis en Jésus. Hein, et donc, je reçois cette vie. Et l'autre façon, c'est par rapport à ce que je fais. Parce que Christ est en moi, hein, et c'est Christ en moi, par son Saint-Esprit, qui va agir. Donc, quand je vais agir, pour faire les œuvres qu'il a préparées d'avance, je vais faire un travail de professionnel. Je ne vais pas agir en amateur, parce que c'est le Saint-Esprit qui en moi va agir. Dans ce sens-là, oui. Donc, il y a par rapport à mon identité, quelque part qui je suis, et par rapport à ce que je fais. Christ est en moi, je suis en Christ. On a lu donc dans Hébreux 5 le reproche de l'auteur à ses lecteurs. Il leur a reproché, vous nourrissez mal, vous êtes encore au lait, et vous ne faites pas d'exercice, vous n'avez pas d'expérience. Eh bien, on va voir que dans la croissance physique et la croissance spirituelle, ça répond aux mêmes lois. Hein? Il y a l'importance de la nourriture et l'importance de l'exercice. La nourriture, je ne vous apprendrai rien que tout sportif qui veut faire des performances et réussir des exploits sportifs, il va prendre une nourriture adaptée au sport qu'il exerce. Vous savez, un marathonien ou un décathlonien qui va faire une épreuve sur des heures et des heures d'effort, il ne va pas se nourrir. Il y a des sucres à digestion lente, des sucres à digestion rapide. Bon, eh bien, les uns vont prendre des sucres à digestion lente, quand l'effort à fournir est long, et un coureur de vitesse qui doit fournir un maximum d'énergie en peu de temps, il va prendre des sucres à action rapide, en fait, qui permettent aux muscles de réagir tout de suite. Donc, vous voyez, c'est important la nourriture, déjà. Je pense qu'un sportif qui ne prendrait que du lait n'aurait peut-être pas trop l'occasion de faire des exploits, je ne pense pas. Hein, par rapport à ceux qui prendraient des vitamines, des protéines, enfin, toutes sortes d'éléments nutritifs. Bon. Et ensuite, l'exercice. Allez, bon. Le kiné retraité que je suis ne peut pas dire autre chose que pour muscler, c'est pas en branchant les électrodes la nuit avant que vous dormez, hein, comme ce ne font pas certaines publicités, que vous allez vous relever le matin avec des muscles énormes. Si on veut muscler un muscle, il faut solliciter le maximum de fibres, donc les contracter, ont une résistance maximale, hein, et c'est là qu'on met en jeu tout le muscle et qu'il va prendre des forces. Ça vous dit, il faut faire un effort, et il faut parfois suer. Bon. Mais c'est comme ça que le muscle prend des forces. Notre foi, c'est pareil, elle va se fortifier si on la met en pratique, dans les occasions que Dieu nous donne. Vous comprenez ? Hein, par exemple, bon, on a une occasion de témoigner, je la saisis et j'exerce ma foi. Hein, j'ai une occasion de prier pour quelqu'un, je prie, j'exerce ma foi. Hein, je suis amené à mieux comprendre la parole de Dieu, je prends le temps et j'essaie de comprendre. Vous voyez, bon, c'est des occasions où je mets ma foi en action. Et c'est dans ce sens-là qu'on comprend mieux maintenant la relation entre être croyant et pratiquant. Ça vous est sûrement arrivé, moi ça m'arrive assez régulièrement, on demande aux gens est-ce que vous êtes croyant. Beaucoup vous disent « Oui, je suis croyant, je ne suis pas pratiquant. » Soit quoi je réponds, parce que j'ai compris ce qu'ils veulent dire, j'ai dit « Vous savez, pratiquer, ça ne veut pas dire d'aller à l'église. Ça ne veut pas dire de prendre l'habitude de vivre sa relation avec Dieu à travers un rituel. Ça ne veut pas dire forcément, de fréquenter des cérémonies, c'est pas ça. Si vous croyez en Dieu, eh bien, pratiquer, c'est mettre votre foi en pratique. Donc, vous croyez que Dieu, il est là le matin quand vous vous levez, qu'il est présent. Hein, qui vous croyez qui vous aime, vous lui parlez, vous lui présentez votre journée. Dans la journée, vous êtes face à des situations difficiles, vous savez qu'il est là, et bien vous l'appelez à l'aide. Hein. Le soir, vous le remerciez pour ce que vous avez vécu. Donc, mettez votre foi en pratique. Et passez donc d'une religion à une relation. Relation personnelle, mais relation d'adulte. Et c'est là qu'il faut faire disparaître ce qui est de l'enfant, si vous voulez avoir une relation d'adulte. Et c'est Paul qui dit aux Corinthiens, 1 Corinthiens 13, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Donc, on comprend qu'un chrétien adulte ne va pas raisonner, ne va pas parler, hein, ne va pas penser comme un enfant. Bon, d'accord. Alors, il y en a qui vont dire, « Oui, mais Jésus, ce qu'il n'a pas dit en Matthieu 18, 13, Je vous l'assure, si vous ne changez pas d'attitude, vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Eh oui, alors, il y a une contradiction là ? Non, non, absolument pas. Jésus est en train de répondre aux disciples, hein, et si vous vous référez dans mon contexte, vous verrez, ils lui ont demandé qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Et Jésus, il saisit l'occasion pour leur faire comprendre que les valeurs du royaume des cieux sont à l'opposé de celles du monde. Et pour lui, le plus petit dans dans le royaume des cieux, en fait, hein, est considéré comme le plus grand. Disons que celui qu'on considère le plus petit, pour Dieu, c'est le plus grand. Et à ce moment-là, il attire à lui un enfant, et c'est là qu'il dit, si vous ne devenez pas comme ces enfants. Ça veut dire, si vous ne gardez pas les qualités qui caractérisent l'enfant, hein, et là on peut en trouver autant qu'on veut, c'est-à-dire, l'enfant, qu'est-ce qu'il est ? Il fait confiance aux parents, l'enfant, il est spontané, l'enfant, il est enthousiaste, l'enfant, il va faire confiance, hein, quand les parents vont lui dire quelque chose, l'enfant fait confiance aux parents. Il y a de nombreuses qualités, il est naturellement affectueux pour ses parents. Tout ça, on doit le garder. Et quand Paul dit « je fais disparaître ce qui est de l'enfant », on a compris, c'est les défauts. C'est-à-dire, quels sont les défauts de l'enfant ? Bon, ben, l'enfant, il va être fragile. Hein, l'enfant, il va il va être naïf. L'enfant, il va être rebelle, capricieux. Enfin, bon. Donc, tout ce qui... les défauts de l'enfant, ceux-là, on doit les faire disparaître. Okay. Alors, quelles sont les caractéristiques maintenant spécifiques à la maturité spirituelle ? À quoi on reconnaît un chrétien mature ? On reconnaît un arbre à ses fruits. On reconnaît les chrétiens matures aux fruits que le Saint-Esprit développe en lui. Et vous connaissez Galates 5, 22, hein, fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ça paraît compliqué. Hein. Mais si vous les mettez trois par trois, vous allez voir, c'est facile. Il y a ce que Dieu met dans mon cœur. Il met son amour, sa joie, sa paix. Bon. Ensuite, il y a ce que nous, on va développer au contact de nos relations avec les autres. C'est-à-dire, hein, patience, bonté, bienveillance. Et ensuite, il y a ce que vous... hein, ce qui va être façonné dans votre cœur comme qualité personnelle, ça va être, face aux circonstances, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. On va y revenir. On va revenir en détail. Mais déjà, je vais vous dire que, vous voyez, c'est pas compliqué et ça marche comme ça. Okay. Donc, revenons un peu sur... d'abord, ce que Dieu met dans nos cœurs. Dieu met son amour, c'est normal, c'est logique. Dieu, il est amour, c'est sa nature. Hein, fille du vin de sa vie, si on a la vie de Dieu en nous, on va forcément manifester de l'amour. Ah oui. Jean dira, celui qui dit j'aime Dieu et qui n'aime pas son frère, j'aime Dieu qui ne voit pas son frère qui voit, est un menteur, c'est vrai. Chrétien, il y a de l'amour dans mon cœur, ça doit se voir. Et est-ce que c'est cet amour qui motive dans tout ce que je fais ? Important. Dieu met dans mon cœur sa joie, et oui, c'est sa joie déjà d'être en relation avec moi, c'est la joie que je dois éprouver aussi par rapport à son amour, sachant que c'est un amour qui ne va jamais s'éloigner de moi. Dieu a donc un amour incommensurable, et il veut que la joie qu'il éprouve à me voir, je la partage. Dieu veut que je partage sa joie. Effectivement. Jésus dira d'ailleurs, afin que ma joie en vous soit parfaite, c'est en vous et qu'elle soit parfaite. Paul dira aussi, rappelez-vous, hein, soyez toujours joyeux. Ça veut dire qu'un chrétien qui est toujours en train de râler, qui est toujours triste, c'est pas un chrétien mature. Hein. Et donc, est-ce que j'ai cette joie en moi, quelles que soient les circonstances ? Et Dieu va mettre en moi sa paix. C'est la paix, paix avec Dieu, paix avec les autres, paix avec moi-même. Jésus dira, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne, mais hein, recevez ma paix. Et c'est vrai qu'il est venu pour qu'on soit en paix avec Dieu. Pour ça. Et Dieu il nous a accordé son pardon, on est en paix. Et on a ainsi même le ministère d'ambassadeur, c'est-à-dire... le ministère de la réconciliation, on a des artisans de paix. Mais si vous pouvez vous dire ambassadeur et ministre, hein, c'est que vous êtes déjà quelqu'un mature, un adulte mature. On ne confie pas des responsabilités à des enfants. Donc, Dieu met en nous son amour, sa joie, sa paix. Maintenant, dans nos relations avec les autres, eh bien, ça va être mis à l'épreuve, ça. La paix qu'on met à l'épreuve, eh bien, elle va générer de la patience. Oui, parce que vous êtes avec des personnes, des fois, il faut les supporter. C'est un peu pénible. Hein, ça vous énerve. Si vous voulez que votre cœur reste en paix, vous allez devenir patient. L'amour que vous avez va se manifester à travers de la bonté. Hein, cette bonté qui va faire preuve de compassion, de miséricorde. Vous saurez accorder votre pardon, vous allez communiquer la grâce de Dieu. Ça, c'est la bonté qui va venir, non, cet amour manifesté aux autres. Et la joie que vous avez, qui déborde de votre cœur, eh bien, vous allez la traduire. Vous aurez des paroles bienveillantes, ça veut dire qu'on veut du bien. Donc, on veut le bien de l'autre, on veut qu'il soit heureux, on va transmettre des paroles bienveillantes, des attitudes bienveillantes, on va être une source de bénédiction, on sera capable de bénir. Et j'ai cité le verset de 1 Corinthiens 4:12. Dans ce verset, vous avez ces trois aspects du fruit de l'esprit. Injurier, nous bénissons, c'est bienveillance. Persécuté, nous supportons la patience. Et calomnié, nous parlons avec bonté, c'est la bonté de Dieu. D'accord ? Donc on a ces trois aspects dans un seul verset. Et enfin, donc, et bien, face aux circonstances, maintenant, moi, je vais aussi acquérir des qualités. Dieu, dans sa bienveillance, il a des bons projets. Et Dieu, pour accomplir ses projets, ça veut dire qu'il a fait des promesses, il est fidèle. Bon. Moi, si je suis bienveillant par rapport aux autres, si je veux le bien des autres, si je veux que Dieu agisse à travers moi pour le bien des autres, eh bien, je vais effectivement me mettre à son service et je vais coopérer en ce sens que je vais être fidèle à ce que je dis, fidèle à ce que Dieu veut faire à travers moi, pour le bien de l'autre. C'est-à-dire que je serai quelqu'un sur qui on peut compter, donc je veux manifester ma bienveillance à l'égard des autres dans des domaines précis où effectivement je vais être fidèle. C'est une qualité que Jésus d'ailleurs va approuver, va louer, c'est bien bon fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, donc on se met au service de Dieu pour que Dieu effectivement puisse réaliser ses projets, et on est fidèle. Bon. La bonté que j'ai aussi, elle va prendre, dans beaucoup de circonstances, la forme de douceur, au sens aussi d'humilité. Jésus dira « Je suis doux et humble de cœur ». Ça veut dire que c'est dans nos relations qu'on peut vivre avec les autres ou face à des circonstances un peu difficiles. On doit toujours être respectueux et plein de douceur. Pierre le dit d'ailleurs, soyez toujours prêts à témoigner de l'espérance qui est en vous avec respect et douceur. Des paroles pleines de douceur. Donc ça, et Philippiens 4:5, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Et la patience que vous avez développée dans votre relation, elle va aussi se traduire face aux circonstances, c'est par la maîtrise de soi, le self-control. Bon, il s'agit de contrôler quoi ? Notre nature charnelle, dans tous ses excès. Parce que la nature charnelle, elle est toujours à l'œuvre, elle essaie du moins. D'accord ? Donc ça peut être par rapport aux besoins du corps. Ça peut être besoin de nourriture, boisson, relations sexuelles. Et un manque de maîtrise, ça va conduire à l'ivrognerie, acceptable, les orgies, la débauche. D'accord. Ça peut être aussi par rapport aux soucis de la vie. On s'inquiète inutilement, au lieu de nous décharger de Dieu, sur Dieu, de tous nos soucis. Ça peut être, on ne maîtrise pas sa langue. On bronche en parole, ça peut faire beaucoup de dégâts. Et l'apôtre Jacques nous rappelle, ne bronchez point en parole. Et ça peut être, on ne sait pas gérer son temps non plus. On ne sait pas se rendre disponible là où Dieu veut qu'on agisse, qu'on s'applique. Et on ne sait pas être ponctuel ou à l'heure au rendez-vous. Là, j'ouvre une parenthèse parce que quelqu'un qui est toujours en retard à ses rendez-vous, à plus forte raison, au rendez-vous de Dieu, et même un culte le dimanche matin. Il y a un problème dans la maîtrise du temps. Je ne comprends pas, autrement. Ah non, mais donc c'est important. Sans compter que là, bon, parenthèse, ce n'est pas le sujet, mais de ne pas démarrer un culte, tous là, présents, dans la louange et tout, on perd beaucoup. On perd beaucoup, spirituellement parlant. Ferme la parenthèse. Ça pourrait faire l'objet d'un autre message. Donc, caractéristique d'un chrétien mature, on maîtrise. Okay. On pourrait aussi, bon, rapidement, par rapport aux dons spirituels, trois dons spirituels. Parole de sagesse. Vous savez qu'une parole de sagesse, c'est une parole que le Saint-Esprit nous donne dans une situation compliquée. On ne sait pas. Il n'y a pas de réponse. Eh bien, cette parole de sagesse va nous donner la réponse de Dieu, la bonne solution. On saura, parce que on sera à l'écoute du Saint-Esprit. Ça peut être, et si on donc, si on manque de cette sagesse, demandons-la à Dieu. Jacques le dit, hein, il vous sera donné. Le discernement, parfois on a besoin de discerner, hein, ce qui est à l'œuvre, point de vue dans le monde des esprits, ou quelquefois, hein, pour ce qui se passe, que Dieu nous donne le discernement. Un homme mature sait discerner. On l'a lu en Hébreux 5 aussi, discerner entre ce qui est bien et mal, d'accord. Et la foi, mais la foi en tant que don spirituel, ce n'est pas la foi qui sauve, hein. Mais c'est l'assurance que humainement, il n'y a aucune solution. C'est désespéré. Mais j'ai cette certitude, cette conviction que Dieu va agir et que j'aurai la victoire dans cette situation. Eh bien, ça, c'est le don spirituel de la foi. Eh bien, un chrétien mature, en toutes circonstances, il sait confiance à Dieu. Donc, il ne s'inquiète pas. Hein, et il va... Il va s'impliquer. Il va s'impliquer. Il sait que Dieu est à l'œuvre. Il laisse faire. Et il va obéir à Dieu. Et il ne va jamais baisser les bras. Il va montrer beaucoup de zèle pour servir l'œuvre de Dieu. Okay. Bon, vous voyez se dessiner un peu le portrait. Chacun s'est reconnu, là. Vous êtes tous des hommes matures. Des hommes enfin, matures. Vous avez vu votre portrait. Maintenant, je vais vous mieux encore préciser le portrait par rapport à l'inverse, l'homme immature. Personne ne va se reconnaître, j'espère. Hein. Faut pas ça. Mais on va mieux comprendre. Bon, rapidement. Il est toujours en train de râler, toujours en train de critiquer. Il se met en colère. Jamais content, bien sûr. D'accord. Il s'engage, oui, demain je serai là, mais il n'est pas là. Hein, voilà. On ne le voit pas. On ne peut pas compter sur lui. Il réagit en fonction de ses émotions. Bon, il y a un pasteur qui a dit une parole désagréable, ou il n'a pas compris, un frère, une soeur. Voilà. Bon, c'est comme ça, je m'en vais. Bon. Je quitte l'église. Pas content, fâché. Ou alors, on manque de persévérance. Bon, dès qu'il y a un effort à faire, on baisse les bras. Et, à les réunions, on n'y vient pas souvent, parce qu'on ne se sent pas concerné, la délégué, c'est pas nous. Bon. Je ne veux pas être membre actif. Assemblée générale, ce n'est pas pour moi. Je ne suis pas très motivé par l'œuvre de Dieu. Puis, défi financier, ce n'est pas mon problème, c'est pour moi. Vous voyez, on ne s'implique pas. Bon. Ça, c'est immature. Bien sûr, nous, on est appelé ces chrétiens. Mature, donc spirituel, conduit par l'esprit. Chrétien immature, chrétien charnel, conduit par la chair. Ok. Et les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit, et ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Alors, comment devenir un chrétien mature? Je vais tout de suite. Vous ne pourrez pas, vous. Vous ne pourrez pas. La croissance, elle vient de Dieu. De même que vous ne pouvez pas ajouter une coudée à votre taille, eh bien, vous ne pourrez pas faire grandir votre foi. C'est Dieu qui a fait. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Jésus, Hébreux 12.2, est le chef et le consommateur de la foi. C'est-à-dire que c'est lui qui mène la foi à la perfection. Donc on ne devient pas mature par ses propres forces, et personne ne peut se vanter de ses qualités spirituelles. D'accord ? Ni de ses performances. Mais en revanche, de même que je suis responsable de la façon dont je nourris mon corps, de la façon je fais de l'exercice, j'accorde des temps de sommeil, ça c'est ma responsabilité. Mais c'est pas, je ne suis pas responsable peut-être de mon poids, oui, de mon poids je ne suis pas être responsable, mais ma croissance non. Bon. De la même façon, maintenant, j'ai à m'engager, moi, pour permettre à Dieu de me faire croître spirituellement. Et là, ça m'intéresse. Et c'est là qu'on va faire un parallèle entre la façon dont une plante grandit et la façon dont nous, on doit grandir spirituellement. D'accord ? Donc, de quoi une plante ? Déjà, elle a besoin d'eau. Il faut l'arroser. Eh oui. Donc, ça veut dire, moi, je dois avoir soif de Dieu, hein, soif de sa présence, je dois avoir soif de sa vie, soif de le voir agir, mais surtout, je dois avoir en moi ces eaux vives du Saint-Esprit qui vont me rafraîchir, pour me désaltérer. C'est important. Ensuite, une plante, eh bien, on sait qu'il y en a qui poussent mieux à l'intérieur qu'à l'extérieur, il y en a qui poussent mieux en présence d'autres plantes. Eh oui. Et nous, ça nous parle, parce que ça veut dire que Dieu veut nous faire croître ensemble, hein, dans ce corps qui est l'Église. Eh oui, hein, les uns avec les autres. Notre croissance, elle est beaucoup meilleure. C'est pour ça que les chrétiens SEF, c'est-à-dire, sans Église fixe, eh bien, en fait, il manque beaucoup de cet apport spirituel que Dieu pourrait leur donner. C'est important. On grandit avec la relation qui nous unit les uns aux autres. Ensuite, il faut laisser agir le temps. Hein, c'est pas parce qu'en tirant sur une plante qui pousse tous les matins que je vais la faire pousser plus vite. On la laisse, la graine, on la laisse s'enraciner, elle sort de terre, il y a la tige, bon, il y a les feuilles, il y a la fleur et il y a le fruit. D'accord. Donc, il faut respecter les étapes. Hein. Et c'est pareil pour une croissance spirituelle. Bon. Faut savoir faire preuve de patience. Il y a un temps pour toute chose. Il faut du temps pour arriver à maturation. Il n'y a pas de raccourci. Des fois, on voudrait être tout de suite comme... on voudrait devenir un papillon. La métamorphose instantanée, mais non, il faut. On passe par le cocon. Voilà. Il faut du temps. Et on a besoin de soleil. Oui. Soleil, c'est quoi? Pour nous, spirituellement, c'est que je m'expose à la présence de Dieu. Mon soleil, hein, c'est Dieu, Jésus, cœur à cœur avec Dieu, face à face. On a besoin de cette présence rayonnante. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Donc c'est important. Hein. Donc, et ça, c'est le culte personnel, quotidien. On prend du temps, hein, et pour louer Dieu, pour l'adorer. Il y a sa parole. Et aussi, bah, une plante, il faut la nourrir, il faut l'engrais. Et l'engrais, bon, ben bah, là, les éléments nutritifs, on sait essentiellement la parole de Dieu, bien sûr. L'étudier, la mémoriser, hein, la méditer, pour mieux connaître, en fait. Hein. Et c'est une parole, comme c'est une parole vivante, 1 Thessaloniciens 2, 13 dit la parole de Dieu, elle agit en vous qui croyez. Et on connaît tous le psaume 1, verset 2. Là. Celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit, c'est comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit dans la saison et le feuillage ne se flétrit point. C'est le témoignage qu'on donne. Les feuilles toujours vertes. Okay. Et puis encore, eh bien, ça j'en sais quelque chose, bah, c'est le printemps, ça, c'est la période où on taille les arbres fruitiers. On taille, on émonde et on bêche. Pourquoi? Parce que il faut couper tout ce qui ne va pas porter de fruits. Donc la sève, elle aille dans les rameaux où il y a des bourgeons à fruits, qui vont porter du fruit. Bon, c'est tout un art, ça. Mais c'est important. Et pour nous, c'est l'épreuve. Dieu, à travers l'épreuve, il coupe ce qui ne porte pas. Des fois, ça fait un peu mal, mais il n'y a que comme ça qu'on va ensuite prendre, hein, toute sa vie en nous, va prendre de la vigueur. Et quand on... Les épreuves, si on est tout retourné, on dit, ah, je suis tout retourné. C'est comme quand on bêche la terre. Une motte de terre, on la retourne. Et s'il y a une graine qui est en surface, elle est mise en profondeur, elle va s'enraciner. La parole de Dieu, des fois, elle a besoin d'aller en surface, elle a l'entendu. L'épreuve, on retourne, ça s'enracine. Jacques va parler de l'influence positive des épreuves. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés afin que vous soyez parfaits et accomplis. Parfait, bien sûr, mature. Hein. Okay. Et enfin, donc, après ça, le fruit. Il est là, le fruit, bien. Oui, le fruit. Signe de la maturité. Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Là, j'ai représenté, vous voyez, comme il y a le sculpteur là, qui est là. Saint-Esprit, c'est le sculpteur. Il veut nous sculpter un cœur à l'image du cœur de Jésus. Enfin bon, j'explique un peu ce que j'ai voulu représenter. Et le cœur, donc, il va enlever tout ce, les défauts, finalement, avec, hein, avec son ciseau. Là. Le marteau, c'est la parole de Dieu, comme un marteau. Il va sculpter, et je dirais que c'est la circoncision, hein. On enlève tout ce qui est charnel. Eh bien, c'est des images, ça. Mais c'est un cœur circoncis, en fait, hein, qui va donc être façonné à la ressemblance du cœur de Jésus et donc libérer la nature charnelle. 2 Corinthiens 3, 18, nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur. Et la circoncision, ce n'est pas celle de la chair, c'est la circoncision du cœur. Bon, on a déjà dit beaucoup de choses, hein. Tout n'est pas dit. On va se poser quelques questions là, maintenant, en forme de bilan. Ok? Donc on va se regarder dans le miroir de la parole de Dieu. Bah, si on a grandi, voir un petit peu où on en est là. Par exemple, ma façon de prier. La façon de prier, c'est l'état de votre relation avec Dieu. Entre nous, si on a mûri, vous savez que ce soit dans un couple, ou même l'enfant avec les parents, si on en est toujours au même, la même mode de relation, s'il n'y a pas quelque chose qui est différent, ben, y a un problème. Hein. Si on est toujours dans, toujours dans les mêmes façons de prier, on est censé mieux connaître Dieu, mieux connaître comment il agit, hein, on a une autre approche, donc nos prières vont changer, c'est normal. J'espère. Quelle est mon implication au sein de l'Église, c'est important. Mes motivations. Pourquoi je suis là tous les dimanches matin? C'est vrai. Pourquoi il faut que je m'implique dans tel ou tel service? Est-ce que j'ai conscience de faire partie d'un corps dont je suis un membre, mais que la santé du corps dépend aussi de ma santé? L'Église va grandir si moi je grandis. Ça, c'est important quand même. Mais si je viens que pour recevoir, ça veut dire que je suis encore un bébé qui a besoin, je suis conscient de ma dépendance, bon, on est tous plus ou moins dépendants, mais si je viens que pour recevoir, ça veut dire quelque part, eh bien, je n'ai pas grandi. Le chrétien mature, il doit pouvoir donner. On donne et on se soucie des autres. On se soucie du besoin des autres. On n'a pas la même valeur, si vous voulez. Un enfant, par exemple, vous lui présentez une sucette, un paquet de bonbons, un billet de 100 euros, il va prendre la sucette du paquet de bonbons. Hein. Il n'a pas conscience de ce qu'on peut prendre un billet de 100 euros. C'est un peu pareil dans le domaine spirituel. Si on n'a pas conscience de ce qui est important aux yeux de Dieu, évidemment, il y a un problème. Bon. Et donc, qu'on vienne pour demander à Dieu de répondre à nos besoins matériels, il faut, c'est normal, il ne faut pas oublier. Mais si ça se limite qu'à ça, pensons qu'on est dans un corps, il y a des frères et sœurs, on doit penser aux frères et sœurs, ils ont besoin de grandir, il faut prier pour eux, et pensons à ceux qui ne font pas partie du corps aussi. Est-ce qu'on se préoccupe du salut aussi, et bien de ceux qui nous entourent? C'est important. Est-ce que je suis soucieux, donc des membres de ma famille, soucieux aussi de l'unité au sein du corps? Ah bon, il y a beaucoup de questions à poser. Et comment je réagis quand quelqu'un, eh bien, me dit une parole désagréable, ou que j'ai été vexé et tout? Est-ce que je sais quand même prendre le temps devant Dieu, et puis on voit la personne, enfin, on prie, on arrive à un accord, on est en paix, le pardon, enfin, ça c'est des comportements d'adultes. Okay. Et puis je voudrais encore ajouter une précision, c'est que souvent, il y a des domaines dans lesquels on pense qu'il n'y a que le pasteur qui peut faire ça. Et on rencontre quelqu'un, bon, on témoigne, c'est bien témoigner. On va réussir même à faire venir quelqu'un à l'église, c'est bien. Mais on s'attend trop à ce que ce soit le pasteur finalement qui fasse le travail d'amener la conviction par le Saint-Esprit, bien sûr. Et qui prie pour la personne ou qui la fasse faire une démarche de conversion. Mais ça, c'est le ministère de tout chrétien. C'est pas réservé au pasteur. Bon, vous le savez, mais c'est l'occasion de redire. On a autorité. Et il y a beaucoup de situations à nous. On partage le message. S'il faut prier, on prie. Si quelqu'un est prêt à faire sa démarche, on l'a conduit dans une prière de démarche. Bon, bon, je crois que ça vous est sûrement arrivé, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas réservé au pasteur. C'est important. Donc, et on peut donc demander que si chacun grandit. Alors, quelques conseils rapides là, simplement. J'espère que ce n'est pas trop lourd, parce que des fois, il rapide. Faut accepter de commencer petit, normal. D'accord? Eh oui. Qui a méprisé les petits commencements? Vous savez, les plus grands fleuves, là, quand vous allez à la source, c'est un petit filet d'eau. Ça commence petit. Bon. Dieu fait des grandes choses, ça commence petit. Faut se revêtir d'humilité, faut être honnête devant Dieu. On n'a pas à vouloir paraître, on n'a rien à prouver. On n'a pas à essayer de se montrer, je dirais, sous une apparence de sainteté, une fausse apparence. Non. Dieu connaît nos cœurs. Ce n'est pas parce que l'enfant il va mettre les chaussures de ses parents. La petite fille, il met les chaussures de sa maman, ou le garçon, il va mettre les bottes du papa, ils ne vont pas courir plus vite. Au contraire. Bon. Ça veut dire que nous, il faut, spirituellement, il faut marcher avec ce qui est conforme à notre maturité spirituelle. Il ne faut surtout pas se décourager. Bon, on tombe, l'enfant qui apprend à marcher, bon. Mais on se relève après. Et le torse se fait de se décourager, dire non, je n'arriverai pas, puis on reste par terre. On fait peut-être 3 pas en avant, on refait 2 pas en arrière. Mais ça ne permet pas de gagner quand même. C'est comme ça. On avance, on recule, on a gagné. Puis la croissance, c'est jamais fini. C'est toujours. Et puis surtout, je vais dire, bon, il ne faut pas se comparer aux autres. Il faut rester soi-même. Parce que prenez exemple sur quelqu'un qui, effectivement, mais vous ne laissez pas impressionner. Il y a des frères et sœurs qui, bon, vous dites, spirituellement, voilà. Bon, pour eux, c'est des personnes qui ont toutes les qualités. Il y a des héros de la foi pour les prendre en exemple, c'est vrai. Mais attention, ils sont là. Laissons-nous encourager par l'autre, par son exemple, si c'est le bon exemple. mais ils ne sont pas non plus modelés par le jugement de l'autre, surtout si c'est un jugement négatif. C'est Dieu. Donc, essayons de mettons-nous devant Dieu et comment Dieu me voit, quel est le regard que Dieu porte sur moi. C'est ça qui est important. Hein. C'est qui compte. Et puis le mot de la fin, eh bien, encourageons-nous, soutenons-nous. C'est ensemble que Dieu veut nous faire grandir. Là, il y a beaucoup de dessins. Hein. Vous pouvez tous les prendre par la main. On se dit, mais les uns après les autres. On se prend par la main. On est indispensable comme un puzzle. Hein. On est tous une pièce du puzzle, important. Comme une pyramide. Là. Je soutiens ceux qui sont au-dessus, mais je suis soutenu par ceux qui sont en dessous. Ah, oui, important. Hein. Puis vous voyez, bon, on se supporte voilà, pour que l'autre puisse monter. Et puis on s'exhorte. Bon, c'est des images. Hein. Mais tout n'est pas dit, mais c'est important. On est ensemble, c'est ensemble. Bon, je crois que c'est quand même important, mais j'ai envie de partager ça parce que c'est le printemps, on voit la vie qui revient là, hein, dans tout ce qui était mort, on voit les bourgeons, on voit les feuilles, on voit les fleurs. Bon. Je dis nous spirituellement, on est pareil. Hein, et Dieu il veut une église eh bien, qui soit en pleine floraison et qui doit apporter du fruit, qui porte du fruit déjà. Eh oui, hein. C'est la saison et par rapport à la parole de Dieu, la spiritualité, c'est du fruit sur toute saison. Il n'y a pas d'hiver, il n'y a pas de printemps, c'est toujours, normalement, c'est sur l'automne, on récolte les fruits. Donc, il faut nous attendre à ça, et puis je crois que non, on doit se laisser encourager, être conscient que, bah oui, on est appelé. Bon. Si vous regardez derrière, de toute façon, vous avez grandi tous. Hein, mais, on veut voir plus. Et n'oubliez pas que ceux qui seront baptisés dimanche, pour nous, c'est des bébés spirituels. Déjà, il y en a qui ont déjà bien grandi, hein, mais que c'est notre responsabilité hein, de porter, hein, et puis de prier pour eux. Et prier pour ceux qui ont été baptisés la dernière fois, on a oublié des fois, mais ça reste. Hein, nos jeunes de la foi, on doit pas les scandaliser, autant on doit les encourager, on doit prier pour eux. Pourtant. T'as déjà été prié de quel instant. Seigneur, mais merci pour cette vie que tu nous as donnée, Seigneur. Cette vie qui vient de toi, cette vie qui a tout un potentiel, Seigneur, un potentiel de croissance que tu as mis en nous, Seigneur. Et ce potentiel, eh bien, tu veux le développer par ton Saint-Esprit, Seigneur, qui œuvre jour après jour. Tu veux, Seigneur, que eh bien, nous arrivions à cet état de maturité, cet état de croissance qui porte du fruit, Seigneur. C'est ce que tu veux pour chacun de nous. Je te prie de nous aider, Seigneur. Aide-nous parce qu'on est conscient qu'on a besoin, qu'on ne peut pas par nous-mêmes, Seigneur, faire grandir cette foi qu'il nous a donnée, mais hein, on peut disposer notre cœur, mais Seigneur, c'est toi hein, qui seul peut accomplir Seigneur, cette croissance, cette maturité, Seigneur. Et on veut vraiment que ton œuvre se fasse, Seigneur. On veut que tu puisses nous utiliser, Seigneur. On veut des ouvriers efficaces entre tes mains, efficaces, mais aussi fidèles, Seigneur. Et on veut vraiment. Eh bien, voir ton œuvre hein, grandir, Seigneur, impacter un peu tous les domaines, Seigneur, de notre société, Seigneur. Et aide-nous vraiment à mettre en œuvre ces dons que tu nous as donnés, Seigneur, et je te prie, et nous te prions pour que tu multiplies ces dons hein, chez les uns, chez les autres, Seigneur. On a besoin de ces dons. Les dons, Seigneur, ce n'est pas le but, mais c'est les moyens que tu nous donnes pour que, eh bien, ce fruit puisse être produit, Seigneur. On te prie, Seigneur, ben, pour que ta vie s'épanouisse vraiment en nous, Seigneur, et pour que eh bien, cette vie qui est en nous, elle puisse attirer à toi eh bien, ceux qui ont besoin précisément de ton amour, de ta joie et de ta paix, Seigneur. Ceux qui en ont besoin doivent les voir au travers de nous, Seigneur, de voir au travers de nos comportements, au travers hein, de notre bonté, au travers de notre bienveillance, de notre patience. Ils doivent voir, Seigneur, ce qui vient de toi, la vie qui est en toi, Seigneur. Et on te prie aussi pour que, bien, Seigneur, à travers cette qualité hein, qu'on aura de fidélité, de douceur, de maîtrise de soi, et bien qu'on puisse montrer qu'on est des disciples, Seigneur, et qu'on donne envie à ceux qui ne te connaissent pas, et bien, de te connaître, et qu'ils viennent à leur tour des disciples. C'est ce que tu veux, Seigneur, et on a compris, et on veut s'associer, Seigneur, à ce projet, on te le demande encore pour notre Église, pour ce corps que nous formons, Seigneur. Je te demande pour les uns les autres, je te prie pour tous ces frères et sœurs que tu nous donnes, Seigneur. Et conscient que, eh bien, on grandit ensemble. Merci, merci pour la force qu'il représente pour nous, Seigneur. On te remercie parce qu'on n'est pas seul. On est en église, on est en famille, Seigneur. Et il est bon d'être, Seigneur, dans ta famille. Bénis chacun, Seigneur. Mais vraiment, eh bien, que ce soit l'occasion. Dans cette période, qu'on puisse avoir un cœur qui rayonne de joie et qui porte ce fruit qui t'honore. On te le demande. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, mûrissez. Mûrissons ensemble. Mais ne demandons pas qu'à deux.